ses chants, à ses cantiques, à ses prières, et
on ne se connaît pas, on a des arrière-plans culturels différents même, mais je vois qu'on est vraiment unis en Christ, et c'est ça qui est le plus important, être unis en Christ, unis avec la parole de Dieu que nous aimons, avec notre Seigneur qui est là, et ça c'est une grande joie. Un jour, on sera tous au ciel pour acclamer notre Seigneur et lui rendre gloire, et on trouvera encore plus notre véritable raison d'être, ce pourquoi nous avons été créés. Alors, ce matin, nous allons poursuivre par le deuxième signe dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. La dernière fois, donc hier, on a étudié le premier signe miraculeux que l'évangéliste Jean relate dans les noces de Cana, au chapitre 2. Et nous avons vu que Jésus avait révélé, avait prouvé, manifesté la gloire de sa grâce, comme il nous est dit, de sa puissance transformatrice, de ses projets bienveillants, en redonnant la joie perdue à l'homme. D'abord pour ses fêtes de Cana et par extension à l'homme. Et Jésus prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu en changeant l'ordre naturel des choses. Il change le naturel. L'eau est changée, transformée en vin. Et maintenant, nous arrivons donc au deuxième signe relaté par l'évangéliste. Et pourquoi le deuxième signe? Prenez avec moi dans Jean chapitre 4, au verset, donc nous allons regarder les versets 43 à 54. Et le deuxième signe est mentionné clairement au verset 54. Pour ceux qui ont des Bibles ou des smartphones, vous pouvez regarder, verset 54. « Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. » Mais, pour ceux qui ont lu, ou qui connaissent l'évangile de Jean, nous voyons que entre le premier miracle que le Seigneur a fait aux noces de Cana, en Galilée, et le deuxième, le Seigneur est monté à Jérusalem, chapitre 2, verset 23, et à la fête de Pâques, il a fait des miracles. Il nous est dit que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles ou les signes qu'il faisait. Mais ces signes-là, ces miracles-là, Jean n'en parle pas. Il passe à ce second signe que Jésus a fait encore à Cana en Galilée. Et ce n'est pas pour rien. Parce que l'évangéliste a en tête, inspiré par le Saint-Esprit, une séquence à relater. C'est ce premier signe des noces de Cana et ensuite ce second signe qui va dans la direction dans laquelle il veut nous entraîner. Et nous allons voir laquelle ensemble. Alors, nous allons lire donc les versets 43 à 54 du chapitre 4. Vous pouvez suivre avec moi. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit !» Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse parole. Merci de nous l'avoir laissée. Merci de nous l'avoir donnée. Merci de ce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. donne-nous de les laisser interpeller et toucher dans nos cœurs. Nous t'adorons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, j'aimerais faire trois points d'introduction et d'explication, aussi un petit peu textuelle sur ce texte, avant d'aller plus loin. Tout d'abord, notre texte, regardez au verset 43, commence par ces mots « après ces deux jours ». Et je pense qu'il faut faire attention au contexte. Après ces deux jours, de quels deux jours s'agit-il ? Jésus revient de Sichar, en Samarie, où il a rencontré la femme samaritaine. Vous l'avez au chapitre 4, verset 1 à 25. Et vous, après que cette femme ait posé beaucoup de questions, qu'il y ait eu beaucoup d'opposition de sa part, etc., finalement, elle reconnaît dans Jésus le Messie. Elle est touchée dans son cœur, et elle est convaincue, et elle croit dans le Seigneur. Et même son témoignage va amener à la foi tous les habitants du village. Verset 39. Et nous lisons au verset 40 que les Samaritains ont prié Jésus de rester avec eux durant deux jours. Et il est resté, donc le Seigneur est resté deux jours là où il était. Et après ces deux jours, eh bien Jésus se remet en route pour se rendre en Galilée. Verset 43 et plus particulièrement verset 46 à Cana. Le verset 44 mérite quand même explication. Et je ne sais pas si vous êtes penché sur la chose, mais il présente quand même une difficulté qu'on ne peut pas passer outre. Je lis ce verset. Verset 43 d'abord. « Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. » Verset 44. « Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. » Je ne sais pas si vous percevez le problème que pose ce verset. Le texte semble dire que la raison pour laquelle Jésus retourne en Galilée, c'est parce qu'il n'est pas honoré. N'est-ce pas ? C'est la signification du car. Ça semble un petit peu bizarre, ça. Alors, certains traducteurs, pour évincer cette difficulté, ont traduit ce car par « bien que » ou « quoi que ». Mais c'est une traduction abusive. Le mot grec, c'est vraiment « car ». Certains commentateurs, pour détourner également la difficulté, ont dit que la Judée, c'était sa patrie. Mais là encore, ça ne fait pas justice au texte, parce que nulle part dans les Écritures, nous voyons que la Judée est associée à la patrie du Seigneur. Maintenant, si vous prenez le temps de regarder tous les passages où il est fait mention ou allusion à la patrie de Jésus, eh bien, vous remarquerez que la Galilée n'est pas mentionnée, mais par contre, la ville explicite de Nazareth est rapprochée, est ce qui fait partie de la patrie du Seigneur. Par exemple, dans Luc, chapitre 4, verset 16, nous lisons « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, donc sa patrie, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Donc nous comprenons que la patrie du Seigneur, ce n'est pas la Galilée, mais c'est spécifiquement Nazareth. Et c'est sans doute là, je dis bien sans doute, l'explication de cette apparente difficulté. L'auteur de l'Évangile considère que la patrie de Jésus, c'est Nazareth, là où le Seigneur a été élevé. Et l'explication serait simplement que Jésus se rend en Galilée, mais pas à Nazareth, parce qu'à Nazareth, aucun prophète n'est bien reçu. Donc, il va en Galilée, spécifiquement à Cana, mais pas dans sa patrie, Nazareth. Troisième remarque, introductive, verset 46. Disons quelques mots sur cet officier. Qui est cet officier dont il est question ? Il y avait à Capernaum un officier du roi. Alors, ce terme peut désigner tout simplement un haut fonctionnaire, civil ou militaire. C'était un serviteur d'Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, qui a régné sur la Galilée du moins 4 à 39 après Jésus-Christ. Mais on lui donnait le titre de roi, bien qu'il ne soit réellement qu'un tétrarque. Et certains ont avancé que cet officier serait Chusa, intendant d'Hérode, que nous rencontrons dans Luc chapitre 8, verset 3, dont l'épouse assistait le seigneur de ses biens, nous est-il dit. Et pourquoi l'aurait-elle fait ? Eh bien, simplement parce que son fils aurait été guéri par le Seigneur. Alors, c'est possible, mais le texte ne le mentionne pas explicitement. Ça peut être une piste intéressante, je dirais, sans doute. Alors, je me propose ce matin de suivre un plan plus simple que ce que nous avons fait la dernière fois pour l'étude des noces de Cana. D'abord, j'aimerais que nous fassions 5 remarques concernant cet officier, cet homme, et avec ces remarques, des applications au fil du texte. Et dans un deuxième temps, nous pourrons expliquer vraiment le message. Quel est finalement le message de ce second signe miraculeux et en quoi est-ce que ça doit nous pousser à croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous puissions avoir la vie en son nom. Alors, d'abord, commençons par faire 5 remarques concernant cet officier d'Hérode, avec quelques applications. La première chose que nous pouvons mentionner dans le texte, c'est que sa position est élevée. D'accord ? C'est un officier. Il a une bonne place au service d'Hérode. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est épargné des calamités de la vie. Son fils est prêt de mourir, nous est-il dit au verset 47. Il y a pas mal d'hommes qui nous sont relatés dans les Écritures, qui ont des postes élevés et qui ne sont pas épargnés par les calamités de la vie. Vous pensez par exemple à Naaman, le Syrien, n'est-ce pas, dans 2 Rois chapitre 5. Ah, c'était un général fort et vaillant. Oui, très bien, mais sous son habit d'apparat, il était lépreux. Les hommes n'ont pas tous le même rang sur la terre. Mais nous nous retrouvons égaux devant les détresses de la vie. Et indépendamment de notre rang social, nous partageons tous la condition humaine avec les épreuves et ses détresses. Et je crois qu'il nous faut percevoir derrière les uns et les autres que finalement, il n'y a pas besoin de se jalouser ou de désirer la position de quelqu'un ou d'un autre. Je connais personnellement des serviteurs de Dieu que j'apprécie beaucoup, et on prie pour eux, on prie pour leur ministère, mais je vous garantis que je n'aimerais pas être à leur place, parce que je connais de l'intérieur quelles difficultés et quelles épreuves par lesquelles ils passent au sein de leur famille, et je peux vous dire que c'est terrible. Donc l'application simple que j'aimerais faire, c'est, frères et sœurs, remercions Dieu pour ce que nous avons, là où nous sommes, la position que Dieu nous a donnée, mais ne cherchons pas à envier une position quelconque. Laissons Dieu nous donner ce qu'il veut nous donner, mais n'allons pas plus loin. Nous ne connaissons pas les épreuves les uns et des autres. Et peut-être que dans cette assistance, il y a des gens qui passent par des épreuves terribles. Le Seigneur le sait. Mais nous sommes là pour exercer la compassion les uns envers les autres. Il est très probable, excusez-moi, donc sa position élevée est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais mentionner concernant cet homme, c'est l'extrémité à laquelle il se trouve acculé. Il est très probable que cet homme ait consulté les meilleurs médecins, vu la position qu'il avait et l'argent qu'il possédait. On peut penser que le diagnostic médical, avec tous les médecins qu'il a dû faire, était sans appel. Il n'y avait pas de solution pour son enfant. Mais en tout cas, il a forcément entendu parler de Jésus. Et peut-être des miracles qu'il avait faits, soit à Jérusalem, ou soit même à Cana. L'eau changeait en vin. C'est possible. Mais il a entendu parler de Jésus. Et je crois qu'il est légitime, frère sœur, de penser que quand cet homme a entendu parler de Jésus, un espoir fou a dû naître dans son cœur. Et si ce Jésus, si cet homme-là était capable de faire quelque chose pour mon enfant, et si il était capable de faire quelque chose? Ce qui expliquerait ce long voyage qu'entreprend cet officier pour aller à la rencontre de Jésus, verset 47. Il faut savoir que le voyage de Capernaum à Cana, c'est entre 6 à 8 heures de marche. Jésus, nous le voyons clairement ici, utilise donc l'angoisse de son cœur de père pour qu'il demande de l'aide à Jésus. Peut-être une application incidente pour nous, frères et sœurs. Acceptons ce que le Seigneur permet aussi dans nos vies, et peut-être est-ce que ce ne serait pas un moyen que le Seigneur utilise pour nous attirer au ciel. Et est-ce que ce n'est pas vrai que quand nous passons par des épreuves, des difficultés, nous avons tendance à développer beaucoup plus notre vie de prière, à invoquer Dieu, à le supplier. On est tous comme ça. Et puis, une deuxième application incidente, frères et sœurs, c'est que quand nos frères et sœurs passent par des épreuves, eh bien, le Seigneur travaille et utilise aussi ces épreuves dans la vie de nos frères et sœurs. C'est légitime de demander « Seigneur, guéris-le, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça ». On le fait tous. Mais néanmoins, Dieu l'utilise. Dieu permet cette épreuve pour que cette personne, ce frère, cette sœur, se tourne aussi vers Dieu et peut-être aille lui aussi faire ce retour à Dieu, quelque part. Dieu, oui, utilise certainement l'angoisse du cœur de ce père pour l'aider à demander de l'aide à Jésus. Troisième remarque, regardez sa réaction face à la rebuffade de Jésus, versets 48 et verset 49. Verset 48, on voit que l'officier n'accueille pas cet officier, Jésus n'accueille pas cet officier avec compassion. Regardez ce qu'il lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Alors, bien sûr, la désapprobation de Jésus s'adresse, semble-t-il aussi, à l'auditoire de Jésus. Mais au premier chef, c'est quand même cet homme, cet officier, qui reçoit cette rebuffade. Ce n'est pas dans son habitude au Seigneur d'accueillir les personnes de cette manière, quoique, de temps en temps, il le fait. Rappelez-vous la femme syrophénicienne, la manière dont il l'a accueillie. Mais est-ce que l'on ne pourrait pas dire que le Seigneur est en train d'enseigner cet officier, de l'enseigner sur quelque chose de la nature même de celui à qui il s'adressait? Jésus n'avait pas besoin de se rendre sur place pour guérir le fils de l'officier. Car Jésus est la vie. Jésus est la parole de Dieu. Et sa parole est puissante. Et cette parole donne la vie. Jésus n'a pas besoin d'aller sur place. Et quelque part, on peut considérer que Jésus est en train d'enseigner ça à cet officier. C'est quelque part une perche, une main tendue pour lui. Petite application incidente aussi pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur ne semble pas prendre en compte nos requêtes, nos demandes, quand nous passons par des épreuves, est-ce que le Seigneur ne serait pas en train de nous enseigner quelque chose sur sa personne, à lui, sur ce qu'il est au travers de ce qu'il est en train de faire ou de ne pas faire? Les délais ont une raison d'être. Quand Dieu ne répond pas à la prière, il y a des raisons. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher, mais ça veut dire que le Seigneur veut nous révéler peut-être quelque chose de plus important sur lui, sur ce qu'il veut faire et sur ce qu'il est, surtout. En tout cas, l'officier aurait pu s'offusquer de cet accueil un peu brutal, voire insultant. Et l'officier aurait pu réagir un petit peu comme Naaman, vous vous souvenez, qui était quand même furieux de ce que Élisée lui ne sort même pas à sa rencontre et lui dit « Va te plonger dans le Jourdain cette fois et ta chair redeviendra pure comme celle d'un jeune enfant ». Franchement, ça ne lui a pas plu du tout. Et il est reparti en pestant, etc. Mais il y a des serviteurs qui sont intervenus en lui disant « Mais si le maître t'avait dit de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait ?»« Ben oui, évidemment. Mais là, il te demande de faire quelque chose de facile. Alors fais-le. » Donc Naaman le fait, et Naaman, effectivement, sera guéri. L'officier ne se laisse pas rebuter par ce qu'il y a de sévère dans les paroles de Jésus. Et regardez, il répond simplement, verset 49, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et il insiste avec une émotion, certainement, qui est trahie par l'emploi de ce diminutif plein de tendresse. Littéralement, ce n'est pas « mon enfant », mais c'est « mon petit enfant, celui que j'aime ». C'est un terme d'affection qui est derrière. Et l'humilité caractérise de toute évidence cet homme. On voit que cet homme ne se met pas en pétard. mais il manifeste simplement qu'il a un besoin profond et qu'il a besoin de Jésus. Et frères et sœurs, Jésus n'y sera pas indifférent. Jésus n'y sera pas indifférent. Ce que le Seigneur attend de nous dans les périodes où il ne semble pas répondre, frères et sœurs, c'est avant tout l'humilité. L'humilité. Accepter, comme notre frère l'a rappelé, et comme j'avais dit hier, que Dieu est Dieu. Dieu sait ce qu'il permet. Le Seigneur sait pourquoi telle ou telle épreuve doit nous arriver. Et ce n'est pas à nous, en tant que créatures, à nous rebeller ou à dire « je ne suis pas d'accord avec le calendrier de Dieu », mais c'est à nous à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et si nous acceptons de prendre cette position d'humilité, alors nous verrons comment le Seigneur veut nous encourager et veut nous bénir. Parce que finalement, nous avons quand même cette promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Quatrième remarque, regardez le choix de l'officier, son choix de saisir l'offre que Jésus fait. L'officier vient demander avec humilité à Jésus de descendre avec lui pour guérir son fils, verset 49. Mais Jésus lui dit, verset 50, « Va, ton fils vit. » En d'autres termes, « Non, je ne descends pas avec toi, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance et ton garçon va vivre. » Et par cette affirmation, frères et sœurs, le Seigneur est en train de créer le dilemme de la foi. Le dilemme de la foi, parce que j'ai ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vis, et ce que le Seigneur me dit. Je vais croire qui ? Je vais faire confiance à quoi ? Mon expérience ? Ou ce que le Seigneur est en train de me dire ? Et frères et sœurs, ce dilemme de la foi, nous y sommes tous encore et encore et encore confrontés à chaque fois que nous passons par une difficulté ou une épreuve. Vous vous souvenez dans Juges, chapitre 4, quand Barak va dire à Déborah, donc Déborah la prophétise à Barak en disant « Va, l'Éternel livre l'armée de tes ennemis, Sisera, entre tes mains. » Et Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'y vais. Mais si tu viens pas, j'y vais pas. » Ah, c'est dommage pour Barak. Et n'est-ce pas, Déborah va lui dire « D'accord, mais si je viens avec toi, eh bien tu vas passer à côté finalement de la gloire, parce que l'Éternel va livrer ton ennemi entre les mains d'une femme, Jaël. » Et c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi, mais il est passé à côté du meilleur, tout simplement. Dans notre texte, verset 50, nous voyons clairement que l'officier fait le choix de croire sans voir, de croire sans ressentir. Il obéit, il n'a pas insisté. Il retournera à Capernaum, non pas avec Jésus, mais il retournera à Capernaum simplement, frères et sœurs, avec une promesse. Simplement avec une promesse. Et ça va faire toute la différence. La parole que Jésus a prononcée. C'est la seule chose avec laquelle il repart à Capernaum. Va, ton fils vit. Ça, c'est fort, frères et sœurs. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-là, cette confiance que l'officier du roi fait à un moment donné, donc à Jésus, au travers de la parole qui lui a été prononcée, qui lui a été dite, n'a pas été contestée? Parce que, nous allons le voir après, le voyage a quand même duré un certain temps, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Vous ne pensez pas qu'il y a plein de choses qui a remué dans son cœur? Mais attends, ce Jésus, il te renvoie là-bas, et il ne vient même pas avec toi, et si... Et il a dû faire taire en lui la voix de la révolte. Mais non, je veux faire confiance en celui qui m'a dit « Va, ton fils vit ». Et il a dû y avoir des assauts sur le cœur et sur l'âme de cet homme. Mais il a dû résister et faire confiance à celui qui lui a dit « Va, ton fils vit ». Mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes confrontés à quoi? Au combat de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, « Combat, le bon combat de la foi ». Et le combat de la foi, c'est indépendamment de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que les autres me disent, si Dieu me dit une chose, je vais lui faire confiance, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais apprendre à dire « Arrière de moi, Satan ». Et faire ça, il faut apprendre à dire non, à s'opposer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous en avons reçu la capacité, non pas en nous-mêmes parce que nous sommes meilleurs, plus grands, pour... non, au nom de Jésus. Je veux faire confiance à cette parole qui me dit « Va, ton fils, vis ». Cinquième remarque, frères et sœurs. Alors, nous voyons que sa foi, la foi de cet officier, est renforcée et devient communicative. Verset 52. Ce n'est que le lendemain que ses serviteurs vont rencontrer l'officier qui descend probablement vers le lac de Tibériade et ils vont lui rapporter cette bonne nouvelle que son fils vit. Verset 51. Alors, petite question, six petites remarques concernant cette septième heure dont il est question au verset 52 et hier dont il est question. Hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. La septième heure dans le système donc hébraïque de comptage des heures, ça ferait une heure de l'après-midi. Mais le problème qui se pose, c'est que si on considère que c'est une heure de l'après-midi, il aurait eu le temps de retourner, vous avez de 6 à 8 heures de marche, il est parti immédiatement. Donc il aurait dû rencontrer les serviteurs le jour même. Or c'est le lendemain qu'il rencontre les serviteurs. Donc ce qui a fait dire certains commentateurs, à juste titre, que l'évangéliste Jean n'utilise pas le système de comptage hébraïque, mais romain dans son évangile. Et dans le système de comptage romain, la septième heure, eh bien, c'est 19 heures, c'est 7 heures du soir. Ce qui explique qu'il est resté la nuit sur place et qu'il est reparti le lendemain, et donc le lendemain, il a rencontré les serviteurs. Je ferme la parenthèse sur cette affaire de la septième heure. Mais l'officier, en tout cas, veut vraiment s'assurer qu'il y a un lien entre la guérison de son fils avec ce que Jésus lui a dit, n'est-ce pas ? Et à quelle heure son fils s'était trouvé mieux ? Or, il se trouve que c'était vraiment à la même heure, il en fait la constatation. Et sa constatation achève d'affermir sa foi. Remarquez comment notre texte aussi soulève la progression spirituelle de l'officier. Et c'est intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça montre la manière dont Dieu travaille dans les vies et dans les cœurs. Regardez d'abord, pour se rendre à Cana, quand l'officier a dû, d'une certaine manière, avoir déjà une certaine croyance, entre guillemets, en Jésus. Même s'il considérait que c'était simplement un prophète ou un rabbi qui pouvait guérir, nous ne savons pas ce qu'il croyait sur Jésus. Mais il avait une certaine croyance sur Jésus. Et puis au verset 50, il est question de la foi en la parole de Jésus. Donc cette fois-ci, il croit dans sa parole, cet homme cru. Et enfin au verset 53, après s'être assuré auprès de ses serviteurs que son fils vivait, à la même heure dont avait parlé Jésus, il nous est dit textuellement « et il crut ». Lui et toute sa maison. Et cette fois-là, elle est bien ancrée dans son cœur et elle devient contagieuse. Parce que s'il croit avec toute sa maison, il en a parlé, il a expliqué ce qui s'était passé, sa famille est venue à la foi. Mais bien sûr, entre-temps, sa foi a dû être testée. Mais il a accepté le test et cette foi-là, maintenant, est devenue vivante. Elle est devenue communicative. Et c'est ce genre de foi-là que le Seigneur voudrait aussi pour nous. Donc, frères et sœurs, ne craignons pas que notre foi doive être testée. Elle est testée et elle doit être testée. Rappelez-vous ce que dira l'épître de Jacques concernant les épreuves, puisqu'il le faut. L'épreuve produit la patience, mais puisqu'il le faut, il faut que votre foi soit testée, etc. Regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, nous dit l'Écriture. Une chose importante à remarquer, c'est que la foi de cet homme est passée de ce que Jésus a fait à ce que Jésus est. Et c'est exactement ce que notre frère nous a dit en introduction. Nous sommes dans le sujet. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Pas simplement le fait que Jésus fait des choses pour moi. il répond aux prières, il me guérit, il m'aide, il fait ceci, ça c'est très bien. Mais le Seigneur est en train de nous emmener plus loin, de nous faire découvrir sa merveilleuse personne en tant que personne admirable, digne d'adoration, digne de louange pour l'éternité. C'est là où le Seigneur nous entraîne. Alors, je passe maintenant, et je termine dans ma deuxième partie. Quel est donc le message de ce second signe miraculeux qu'opère le Seigneur ? Verset 54. Il nous semble qu'au travers de ce signe miraculeux, il y a un message qui est le plus important, et ensuite des sous-messages qui découlent du premier message. Le premier message de ce signe miraculeux qui me semble le plus important, c'est que Jésus restaure la vie. Jésus restaure la vie. Pourquoi cela ? Parce que notre texte souligne à répétition ces petites phrases sur lesquelles, ces petits mots sur lesquels il ne faut pas passer trop vite, mais y prêter attention. Regardez cette expression importante, « ton fils ou ton enfant vit ». Vous l'avez verset 50, « va lui dit Jésus, ton fils vit ». Verset 51, « les serviteurs qui viennent à la rencontre de l'officier, lui apportent la nouvelle, « ton enfant vit ». On retrouve encore la même expression. Et puis verset 53, « le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « ton fils vit ». Voilà, ce message, le Seigneur restaure la vie. Il restaure la vie parce que il est le créateur de la vie, tout simplement. N'est-ce pas ? Parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et, mes amis, ce signe doit nous interpeller parce que Jésus restaure toujours la vie. Et Jésus restaure encore maintenant la vie. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est à la droite du Père, mais Jésus restaure la vie de tous ceux qui se tournent vers lui. Tous ceux qui s'approchent du trône de grâce pour recevoir la vie en son nom. Et cette vie que nous recevons est avant tout spirituelle, parce que le Seigneur Jésus est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Si dans le premier signe, nous avions le fait que ce qui était souligné, c'est que Jésus restaurait la joie, dans le second signe, nous avons Jésus qui restaure la vie. Alors, un autre signe qui peut être rattaché à celui-là, qui me semble principal, c'est que Jésus prouve qu'il est le divin médecin. Il est le divin médecin, parce que sa parole est puissante. Les médecins de notre monde utilisent des médicaments et des remèdes que Dieu permet qu'ils connaissent, c'est une grâce de Dieu. Mais Jésus, lui, comment guérit-il ? Pas avec des remèdes, pas avec des pansements, il guérit avec sa parole, avec sa parole. Et le texte souligne de manière incidente, verset 52, cela. L'officier le comprend quand il demandera à ses serviteurs à quelle heure son enfant s'est trouvé mieux et guéri. Et bien c'était exactement le même moment, à l'heure même, où Jésus lui avait dit « ton enfant vit ». Jésus guérit avec sa parole. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs ? Que Jésus guérit avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'hier, on a passé du temps ensemble à expliquer, à dire, mes amis, plongez-vous dans la parole de Dieu. Méditez-la, aimez-la, nourrissez-vous de votre famille. Laissez-vous pénétrer de cette parole comme une éponge se laisse pénétrer quand elle est plongée dans l'eau. Pourquoi ? Parce que Jésus est le divin médecin et Jésus utilise sa parole pour nous guérir. Nous guérir de toutes les cicatrices que nous avons les uns et les autres parce que nous sommes dans un monde déchu et parce que nous sommes pécheurs, parce que je suis pécheur. Et frères et sœurs, la réalité, c'est que quand nous vivons les uns avec les autres, nous nous blessons les uns les autres parce que nous sommes pécheurs, même quand nous sommes en assemblée, même au sein d'une église. Et c'est la raison pour laquelle il faut placer la parole de Dieu au centre de nos réunions. Et il faut placer la parole de Dieu au centre de nos vies, chacun individuellement, pour que cette parole, à notre insu, nous guérisse, nous change, nous transforme. Merci pour ce merveilleux remède que Dieu nous a donné, sa précieuse parole. Si nous voulons guérir de la fièvre du péché, plongeons-nous dans cette merveilleuse parole. Croyons-y, méditons-la et mettons-la en pratique. Et faisons souvent cette prière. J'aime beaucoup ce verset dans Jérémie chapitre 17, verset 14. Bien qu'il soit prophète de l'Éternel, Jérémie dira « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Ça, c'est un verset que vous pouvez noter et en faire un sujet de prière. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. » N'est-ce pas ? Jésus est le divin médecin, parce que sa parole est puissante. Et finalement, il y a un autre signe qui est rattaché encore à ceux qui précèdent, c'est que Jésus répond à la foi que l'homme lui accorde. Et je n'ai pas dit que cet homme-là, cet officier lui accorde, mais que l'homme, de manière générale, lui accorde ou est prêt à lui accorder. Regardez de manière incidente comment ce passage souligne le fait que Jésus répond à la foi de l'homme. Verset 50, je lis. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme, crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. La foi de l'officier le met au bénéfice de la parole puissante de Jésus. Mais Jean appelle l'officier « cet homme ». Comme pour renforcer l'idée que l'offre de la foi est pour tous les hommes qui veulent croire. Et tous ceux qui croient seront mis au bénéfice de la parole puissante de Jésus. Si l'officier était un païen, ce qui est possible, mais pas certain, puisque le texte ne le dit pas, cela offrirait encore, élargirait cette offre, finalement, à toute l'humanité. Qui veut croire ? Qui est prêt à croire ? Alors, si tu crois, c'est pour toi. Est-ce que, durant cette nouvelle semaine et les mois à venir, nous ferons partie de cet homme, cette femme qui prennent au mot la parole de Jésus et qui sont prêts à partir dans la vie avec les promesses que le Seigneur nous fait. Sans voir, sans croire, mais simplement en lui faisant confiance et en allant. Conclusion. Nous voyons comment Jean illustre ce deuxième signe, la conclusion que Jean donnera dans chapitre 20, verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi ? Parce que Jésus restaure la vie, parce que Jésus est le divin médecin, parce que Jésus est la parole puissante, il est cette parole lui-même, et parce qu'il la donne aux hommes, parce que Jésus offre la foi et répond à tous ceux qui viennent à lui. Alors il est bien le Christ, le Fils de Dieu. Notre foi sera testée, frères et sœurs. Mais si nous acceptons ce test de notre foi, nous pouvons être sûrs que le Seigneur viendra à notre secours. Le Seigneur est prêt à faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Alors, mes amis, allons dans la vie avec cette merveilleuse promesse. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Prions. Ça. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole précieuse, ta parole qui restaure, ta parole qui donne la vie. Ta parole qui transforme nos cœurs, atteints de cette maladie du péché. Nous te remercions de ce que nous pouvons te faire confiance. Et nous te remercions pour l'exemple de cet homme qui t'a fait confiance. Tu as répondu à sa foi et tu es prêt à répondre à notre foi. Fortifie notre foi. Fortifie-la par ta parole. Donne-nous de t'aimer et donne-nous de te servir. Nous te bénissons et nous te rendons gloire ensemble. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour votre écoute. Faites ça.